à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette 13e édition du 33-45. Aujourd'hui, on va parler des groupes, plutôt pas des groupes, mais bien des membres de groupes, surtout des chanteurs qui ont décidé de dire à leur band
« Je vous emmerde, je rentre à ma maison ».
Ou ça serait plutôt « Je vous emmerde, je pars une carrière solo ». Il y a plusieurs raisons, puis en fait, il y a plusieurs cas de carrière solo chez des bands dans l'histoire de la musique. Il y en a même énormément. Je sais pas, c'est peut-être même une majorité des groupes qui finissent par une carrière solo. Habituellement, c'est le chanteur qui part de son côté. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi un chanteur part en solo. Ben, il y a souvent des conflits à l'intérieur du groupe. Chaque personne veut avoir un peu plus son mot à dire sur les activités, les chansons choisies, la façon de voir l'évolution du groupe. Parfois, c'est un producteur aussi qui essaie de convaincre une personne en particulier de partir en solo parce que, et il leur dit que c'est la grosse vedette du groupe et que présentement ils divisent en 5 l'argent et qu'ils pourraient en faire beaucoup plus en solo et blablabla. Donc c'est des fois un producteur qui va convaincre quelqu'un de partir. Mais en fait les raisons sont très variées. Des fois c'est douloureux, des fois ça l'est moins. Un qui a eu beaucoup de difficultés à quitter son groupe, et c'est par une chanson de lui qu'on va commencer, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, depuis l'âge de, je crois, 4 ans peut-être, qui était avec les Jackson 5. Et déjà à cette époque-là, étant le plus jeune du groupe, c'était clairement le leader. Il y a de la documentation qui montre que c'est clairement lui qui montrait et enseignait à ses frères comment danser, comment chanter, tout ça. C'était instinctif chez lui, là. C'était carrément un enfant de génie, ce Michael Jackson. Et la séparation de son groupe a été très difficile. En fait, c'est pas lui qui voulait quitter le groupe tellement, mais il y avait une espèce de pression sociale autour de Michael Jackson. Jackson qui faisait en sorte qu'il était comme obligé de rester avec les Jackson et ça a été très long. Même après avoir fait d'excellents albums solo, en fait il a fait plusieurs albums solo même à l'époque où il était enfant, il en a fait 4 je crois. Il a fait l'excellent album de l'âge adulte Off the Wall, super bon album, c'est même mon préféré de Michael Jackson. Et après ça il a fait le très mythique Thriller, mais même à cette époque-là, Thriller a lieu aux alentours de 82 je crois. En 84, il y a eu un album de Michael Jackson avec les Jackson toujours, et Michael Jackson tournait toujours avec les Jackson 5 à cette époque-là. Son père, qui était manager du groupe, l'avait convaincu de faire une toute dernière tournée avec les Jackson, donc vous pouvez vous imaginer un peu de quoi ça avait l'air, c'est un peu spécial. T'avais le méga hit Billie Jean, en 84, Michael Jackson a été obligé de faire une tournée. T'es pas obligé, mais il a fait une tournée qui était le Victory Tour avec tous ses frères, donc tout le monde se foutait probablement, mais c'était la dernière tournée, et la première grande tournée de Michael Jackson, ça a été avec l'album Bad. Mais j'ai cet album-là, l'album s'appelle Victory, des Jackson, et une des chansons les plus intéressantes de l'album, c'est un duo avec Mick Jagger, et je trouve ça intéressant parce que Mick Jagger, c'est tout le contraire. Même s'il a déjà fait quelques disques en solo, il reste qu'il a été très très fidèle à son band. Donc c'est un duo avec Michael Jackson et Mick Jagger qui s'appelle State of Shock.
you got me in a state of shock.
You look got at that. Me in.
Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me.
Alors, c'était State of Shock de Michael Jackson et Mick Jagger. D'ailleurs, c'était pas supposé être Mick Jagger, cette chanson-là, au début. Non, non, non. C'était supposé être Freddie Mercury. Bien oui, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, qui était supposé originellement être sur les chansons. D'ailleurs, sur Internet, si vous fouillez un peu, il y a la possibilité de trouver cette chanson-là de Freddie Mercury avec Michael Jackson sur State of Shock. C'est un différent de temps là, qui a fait en sorte que finalement, c'est Mick Jagger qui a repris les rênes de la chanson. Donc, c'était pas un conflit. Ça m'amène à parler de Freddie Mercury. Freddie Mercury, c'est pas quelqu'un qui a quitté son band officiellement, mais à la fin de sa carrière, avant d'être tristement mort du sida, Freddie Mercury a fait deux albums solo, en fait, un en 85 et l'autre aux alentours des années 80, je crois en 88, c'est un album d'opéra, le deuxième. En tout cas, si on regarde l'histoire un peu puis on connaît un peu Freddie Mercury, je crois sincèrement qu'il aurait fini une carrière solo si malheureusement la maladie ne l'aurait pas emporté. Ça n'a pas été fait, mais ça me donne un prétexte pour jouer une de ses chansons quand même. Et j'aimerais ça vous faire découvrir aujourd'hui une chanson que vous connaissez probablement, qui est Living on My Own, qui est en fait une chanson solo de Freddie Mercury, la plus connue, mais en fait, elle a été remixée à titre posthume, cette chanson-là. Donc la chanson que vous connaissez, que vous pensez être l'original, est enfin un remix. Donc je vais vous faire écouter présentement la chanson Living on My Own du premier album solo de Freddie Mercury. L'album s'appelle Mr. Bad Guy.
On my own. Sometimes I feel I'm always walking too fast.
So lonely.
And everything is coming down on me.
j'avoue que j'ai triché un peu pour vous passer cette chanson-là, parce que bon, officiellement, Freddie Mercury a jamais quitté Queen, mais je vais y aller vraiment avec un des plus grands exemples de groupe qui avait du succès et qui s'est brisé et que s'il y avait de la tension a pu finir dans les membres du groupe, c'est le groupe The Police, le trio The Police. Plus le band grandissait, plus le band avait de succès, plus les conflits étaient virulents et plus Sting essayait d'avoir le contrôle du band. Donc c'était une roue infernale dans le sens où ce que il pouvait pas vraiment quitter le band parce que le band était très populaire. En fait, c'était quasiment le plus grand band de son époque. Mais de l'autre côté, Sting devenait de plus en plus contrôlant et ne laissait presque aucune place aux deux autres membres du groupe, qui d'ailleurs, je me souviens même pas de leur nom. Ils n'ont pas eu un gros succès solo. Peut-être que Sting avait raison de le faire aussi, de tasser ses deux acolytes. Peut-être qu'ils avaient moins de talents musicaux. Les trois ensemble ont fait vraiment des merveilles. Mais on s'entend que quand on va voir Sting en concert, souvent c'est Roxanne et c'est les gros hits de Police qui vont jouer là. Sting a quand même connu une très belle carrière solo et un de ses grands succès solo, c'est Englishman in New York, une très belle chanson qu'on va aller écouter.
Yeah.
un solo de sax cochon. On va le laisser jusqu'à la fin. Voilà. On va le couper là. Bon, alors on va y aller avec un autre artiste qui a dit « fuck you » à son band. En fait, c'est David Lee Roth qui a quitté Van Halen, qui était au sommet de sa gloire en 84 avec la chanson « Jump ». Officiellement, au départ, c'est sorti un peu de nulle part. David Lee Roth a dit qu'il prenait une pause, donc officiellement son premier album solo est sorti alors qu'il était encore membre du groupe. Officiellement, mais en fait, lui, je crois vraiment que c'était la passion personnelle. Il voulait faire des films, il voulait être une star. Il a même dit que depuis le début de Van Halen, il savait que ça allait arriver un jour. C'était à l'époque de MTV, c'était la flamboyance, c'était une personnalité forte. Je pense qu'il aurait pu réussir, en fait, son vidéo de I Just a Gigolo a passé beaucoup d'ailleurs à MTV, mais c'était à des lustres de ce qu'il faisait avec Van Halen. C'était une musique qui était pop, qui était bonbon, qui se voulait très 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 commercial, et tandis que bon, Van Halen était quand même assez commercial, mais c'était plus basé sur la musique. Puis bon, la guitare d'Eddie Van Halen était tellement caractéristique que je pense que David Lee Roth a tout simplement voulu voler de ses propres ailes pour revenir plus tard au sein du groupe. Le dernier album du groupe a été fait justement avec David Lee Roth. Et j'ai d'ailleurs vu David Lee Roth live au festival d'été. Et d'ailleurs, il y a un couple qui s'est formé sous mes yeux lors d'un un concert de Van Halen, qui est Alexandra et Eric. D'ailleurs, je vous salue. On y va avec, et je vous dédie, Just a Gigolo de David. David Lee Roth, il aurait dû rester dans Van Halen tant qu'à moi. Quoique Van Halen l'avait bien remplacé par, comment il s'appelait donc? Sébastien, je pense que c'est Sébastien Bach. Mais il était quand même bien remplacé, mais il n'y a pas David Lee Roth en solo. Il y a eu quelques chansons qui ont été des hits comme celle-là. Mais c'était un hit d'un été probablement. Ça a rejoué plus tard, mais bon, c'était. Ça a loin d'être la qualité de ce que Van Halen faisait comme musique. On s'entend. Je vous ai demandé sur mon Facebook, d'ailleurs, à www.facebook.com/le3345. Si vous aviez des idées, je vous ai demandé ça hier en fait. Je vais aller voir sur mon cellulaire ce que vous m'avez dit. Il y a François, salut François, François Grenon, qui me parle de plusieurs artistes. Attendez, je vais aller chercher ça. Qu'est-ce que tu nous dis, François? Tu nous parles d'Axl Rose. Effectivement, Axl Rose, il n'est pas vraiment parti solo. C'est plus tout le monde qui ont sacré le camp, me semble. La chanteuse des Cranberries. Désolé, Franck, je déteste les Cranberries. Jamais je vais passer ça. Dave Grohl est en tout cas, tu m'en apprends une, mais il n'y a pas eu vraiment le choix. Là. C'est sûr qu'il y a eu une carrière solo intéressante par la suite, mais il n'y a pas vraiment fait de break-up. Ozzy Osbourne, tiens, on va y aller avec ça. Ozzy Osbourne, moi, je pensais qu'Ozzy Osbourne avait quitté, dans le sens où ce que il est devenu également, lui aussi, très commercial, un peu comme David Lee Roth. J'ai vraiment pensé que c'était par sa volonté d'aller exploiter sa flamboyance puis pas donner une scène à ses autres amis. Mais en fait, c'est pas ça pendant tout. Il s'est fait sacrer dehors de Black Sabbath. Il se présentait plus aux pratiques, il était plus aux enregistrements. Puis là, on parle de mois d'absence. C'était assez incroyable tout ça. Et il s'est quand même remis sur pied, si on peut dire comme ça, avec une carrière solo qui a été, somme toute, très riche et quand même différente de ce qu'il fait avec Black Sabbath. Je veux dire, il n'y a pas. Bien sûr, il joue quelques succès de Black Sabbath en concert, mais il y a quand même une très grosse sélection de chansons de ses albums solo. Je vous ai déjà fait jouer Crazy Train. Je me demande quelle chanson que je pourrais vous jouer. Je pense que je vais faire jouer... attendez, je vais aller tirer mon bras. Juste là. Je vais aller chercher cet album-là. OK, on va y aller avec... Bark at the Moon! Oh yeah! On va continuer en heavy metal. Je regarde ma liste. Il y a aussi Claudine qui nous a dit Dave Mustaine. Dave Mustaine, oui, c'est ça. Il s'est fait sacrer dehors de son band lui aussi, tout comme Ozzy. Il est reparti de son bar. Il a fait son band Megadeth. Et son but, c'était vraiment de devenir le band le plus rock, puis le plus heavy metal, le plus trash possible. Honnêtement, il a réussi, je pense. En fait, c'est un groupe qui est encore plus speed metal que ce qu'a fait Metallica, qui est devenu un peu plus pop. Je dirais que Megadeth est pas mal resté toujours à ses origines. Donc, on va jouer ça. On va aller jouer quoi? On va aller jouer Peace Sells But Who's Buying? Le heavy metal un petit peu pour vous parler du break-up le plus merveilleux de l'histoire de la musique à mon avis, puis je vous explique pourquoi. Je suis un gros fan de musique progressive, ok, un gros fan, mais il y a un groupe que j'ai jamais vraiment apprécié. J'aime ça là, mais je peux pas considérer que je suis un fan. Puis je parle de Genesis. Ils ont fait des bonnes chansons, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Je veux dire, j'ai tous là, les albums de Genesis. J'en écoute un une fois de temps en temps, puis j'aime ça. Mais il n'y en a pas un qui m'accroche plus que les autres. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde parmi vous qui va dire « Sacrilège, Genesis, c'est le meilleur band au monde. » Ben, je suis désolé de vous l'apprendre, mais moi, je préfère de loin ce que Peter Gabriel a fait en solo, ce que Steve Hackett a fait en solo, et dans une certaine mesure, ce que Phil Collins aussi a fait en studio. Dans les trois, j'ai un faible pour Steve Hackett, personnellement, mais j'aime aussi beaucoup Peter Gabriel solo, et c'est ce que je vais vous faire entendre prochainement. Peter Gabriel, quand il est parti solo, une des particularités, c'est que tous ses premiers albums ont le même nom, il s'appelle Peter Gabriel. Donc, honnêtement, j'en ai pris un au hasard. Je sais pas lequel que c'est dans la série. En fait, il y a au moins les quatre premiers là, qui n'ont pas de nom, qui s'appellent tout Peter Gabriel. Donc, on va y aller avec une chanson un peu moins connue, qui est Moribund de Burgermeister. Je m'excuse pour la prononciation. Et après ça, on va y aller avec la plus connue, Salisbury Hill.
Around and around.
Entre les deux chansons pour laisser le temps du vinyle, parce que c'est vraiment les deux tracks qui se sont suivis une après l'autre. J'aime beaucoup les disques de Peter Gabriel pour ça. Ça balance beaucoup des gros hits avec des chansons plus commerciales comme celle-là, mais encore là, c'est plus des chansons à succès. C'est pas composé pour être commercial non plus. Mais Peter Gabriel, lui, quand il a quitté Genesis, il voyait le band qu'il était en train de devenir. Il se voyait pas devenir la méga vedette de rock band. Il trouvait ça trop stéréotypé à son goût. Il voyait les grosses tournées s'en venir. Il se comprenait de moins en moins là-dedans. Et il a décidé de quitter le groupe qui était en pleine gloire. Ce qui vient même dire que quand on n'est pas heureux dans une situation... Même si tout notre entourage nous probablement essayait de le convaincre de rester, parce qu'il y avait pas. Je pense pas qu'il y avait tant de conflits que ça à l'intérieur du groupe Genesis. Mais faut pas. Une situation qu'on n'aime pas, si on se sent pas bien quelque part, c'est peut-être parce que justement on n'a plus notre place là. Et je félicite Peter Gabriel d'avoir eu le courage de quitter un des groupes les plus populaires juste parce qu'il en avait envie. Tout simplement. Donc, on va y aller. J'ai Claudine qui m'a écrit pendant que je fais mon podcast, c'est drôle. Elle me parle de Prince and the Revolution. C'est vrai, ben Prince avant, c'était Prince and the Revolution. Donc, il a sacré dehors la Revolution, puis il est devenu Prince. C'est vrai, ça aurait pu être un bon choix. J'ai pensé aussi à Alice Cooper, mais j'en fais tout le temps jouer, parce que Alice Cooper, au début, c'était un band avant que Alice Cooper décide de prendre le nom d'Alice Cooper légalement pour continuer sa carrière solo avec le nom d'Alice Cooper, bien qu'il s'appelait déjà Alice Cooper dans le band Alice Cooper. C'est quand même assez étrange, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu le même principe. J'ai essayé de trouver aussi des groupes québécois, parce que j'aime bien faire jouer du québécois à mon podcast, des groupes québécois qui ont quitté leur band, et ben tout de suite j'ai pensé à Jerry. J'ai pas voulu faire jouer un succès, je vais vous faire jouer une chanson de son album un peu moins connu, son premier album solo. C'est une chanson que Plume La Traverse lui a écrite, qui s'appelle Le Roi de la Marchette. C'est une très belle chanson, et nous on va se laisser là-dessus. Je vous rappelle que sur mon Facebook, donc facebook.com/le3345, qui s'écrit LE3345, pour un don de 5$, vous prenez le contrôle du podcast. Donc, pour mon prochain podcast, vous choisissez une thématique ou 2-3 chansons, vous me laissez aller avec ça, et je vous fais une thématique dans laquelle vous allez briser le podcast. Et en même temps, ben, ça m'encourage et ça me permet de payer mes frais d'hébergement. Voilà, donc je vous souhaite une agréable semaine, et on termine avec Le Roi de la Marchette.
D'un bord pis de l'autre le long de la Saint-Laurent. Jour je monte la côte pis soit je larde sans ce qui fait chaud ou frette. C'est moi le roi de la marchette. Ça fait un bout que mes bottines se frottent sur le dos des trottoirs. Pis que mes rétines sont habituées au noir. C'est ça ma tenue d'athlète. C'est moi le roi de la marchette. Dans l'eau. Tripez le pied d'un zèbre, tripez les pieds sur terre, à la ronronde comme tout le monde. Marchoyez dans la poussière des amours décrissés, m'entraînez dans le cimetière des soupirs du passé. J'ai traîné mon squelette, c'est moi le roi de la marchette. Les pieds dans même bottine. J'ai fait au troll tout des trous du bas de la Saint-Laurent. Comme un hobo, comme un pèlerin errant. Ma traîne est faite. Wow! C'est moi le roi de la marchette. 2-3 steppettes. C'est moi le roi de la marchette.